manger, faire pipi, manger. Les besoins premiers des artistes, faut que ce soit moi qui ai les réponses pour savoir comment ils peuvent les satisfaire.
Les contenter, ouais, tout à fait.
Et ensuite, il se trouve que sur la team Accueil Artiste, c'est moi qui suis en contact avec la presse en général. Je dirais, parce que, en tout cas, l'année dernière, Poisson Vélo, c'était plutôt moi aussi. Et il y a une autre personne dont j'ai malheureusement oublié le nom du podcast, mais qui fait des podcasts.
Oui, mais qui en cheville avec Poisson Vélo, on avait discuté avec.
C'est ça. Et donc voilà. Et donc il y a plusieurs contacts presse. Et c'est vrai que depuis 1, 2, 3, 4 ans, c'est plutôt moi qui gère le contact avec la presse. Notamment Radio Principe Actif, qui sont de loin les plus insupportables de tous.
Tu fais ça pendant qu'il t'entend plus, c'est ça, hein. Mais
exactement.
Moi je t'ai entendu, hein.
Je le vois bien,
mais je sais bien le plus les plus insupportables. Mais c'est un titre que nous revendiquons, hein, d'être les plus insupportables. Mais en même temps on est un peu mignon quand même.
Ah bah très, c'est pour ça que je vous aime bien quand même. Et donc le challenge, c'est effectivement, bah, comme Gisèle l'a dit, d'avoir le conducteur 15 minutes avant le début de l'émission.
Ça, c'est notre touche à nous, ça.
Voilà, sauf que en fait, bah, il y a des groupes qui sont en train de faire leur balance, il y a des groupes qui sont en train de jouer, et ils me disent on les veut dans une demi-heure. Ouais, mais là tout de suite ils sont sur scène. Je vais pas pouvoir leur poser la question maintenant. Où il y a des groupes qui ne sont pas encore arrivés, accessoirement, comme c'est le cas cette année. Donc, c'est aussi géré avec les imprévus de dernière minute. Enfin, les imprévus prévus, parce qu'on se doute que quand on donne le conducteur 15 minutes avant, il y aura des imprévus.
On n'a jamais fait une seule émission comme c'est écrit sur le premier papier.
Rarement.
Jamais. Rarement. Jamais, 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 jamais. C'est un... Non, mais c'est un principe. Ça ne doit pas être comme sur le papier, sinon c'est pas drôle. En tout cas, merci beaucoup à toi, Willow, de nous faciliter la tâche, de mettre ce petit... voilà, il y a Lily qui envoie des cœurs. De mettre cette goutte d'huile dans les engrenages afin de nous faciliter la vie. Je me retourne vers l'ami. Merci beaucoup à toi, Willow. On va t'embêter toute la soirée, rassure-toi. Et demain, pareil. Trémolo, j'ai vu que tu installais du monde autour de la table. Si je dis pas de bêtises, c'est la menthe qui vient d'arriver.
C'est ça. Si on a un morceau.
Ah, tu veux le mettre avant le morceau
ou alors en sortie.
Tout le monde est là, vas-y.
On y va.
Je t'en prie.
Ok. Donc effectivement, je suis en compagnie de Étienne Froidure. C'est ça, hein.
C'est
salut.
Ça. Salut. Et on est accompagné d'Harmonie également, qui est claviériste sur le projet.
Harmonie, ok. Oh. Vous venez de jouer, vous sortez de scène. On vous a vu à 4 sur scène, avec une belle guitare bleue.
Tout juste.
Alors, peut-être parler un petit peu de votre musique. J'ai lu que ça évoquait une sorte de William Scheller qui aurait découvert la pédale fuzz. Vous en pensez quoi de cette affirmation?
Ouais. En fait, c'est un copain qui a rédigé cette biographie, parce que c'est toujours dur d'écrire une biographie pour soi-même.
Ouais.
J'aime William Scheller beaucoup. En fait, il y a des gens qui m'ont dit au début de la menthe du projet que ma voix leur rappelait William Scheller, que je connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et j'adore. D'accord. William Scheller, j'adore son écriture. Mmh. Et je trouve ça rigolo comme William Scheller avec une guitare fuzz. Il y a un peu de ça dans cet album-là, en tout cas, La Maison des Voisins.
Vous composez à deux, j'ai cru comprendre.
Non.
Avec Guilherme.
Alors, je compose tout seul de mon côté et j'enregistre avec Guilherme Frénaud. Ouais.
C'est l'enregistrement, d'accord.
Qui va avoir un rôle de réalisateur sur l'enregistrement et d'arrangeur également, quand même.
Comment ça s'organise le travail entre vous? Du coup, vous êtes. S'il est arrangeur, tu lui proposes des morceaux déjà.
Ouais, déjà. Alors, quand même, déjà arrangé. Souvent, j'écris. Guitare-voix arrangée avec d'autres mélodies, ça peut être un piano-voix, et puis avec de la basse, des claviers, etc. Et puis ensuite, dernièrement, sur le dernier album, on est parti carrément des démos. En fait, on a ouvert les fichiers des démos pour garder un petit peu cette magie-là, et puis c'était notre point de départ. Et puis derrière, on a réenchéri avec plein d'autres idées, quoi.
Ouais. Et du coup, à 4, après, ça se nourrit de ce que chacun apporte.
Exactement.
Ouais, nous, on arrive à la fin du cycle. En fait, c'est vraiment la formule live qui prend vie en répète et en résidence et en concert. Et en fait, on écoute, on relève un peu ce qui est important dans les morceaux d'Étienne, et puis on réarrange pour le live tous ensemble. Ouais. Enfin, moi, je suis la dernière arrivée, donc.
Ouais. Et pourtant, tu fais les claviers sur scène.
Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, les albums, enfin, l'EP album d'avant, ouais. Musique pour les oreilles, était plus rock peut-être, plus.
Je sais pas si t'es plus rock, mais t'es plus
synthé,
guitare.
Ouais.
T'es plus guitare, et avant, on jouait en live avec. Donc un bass bat et deux guitares, et ce deuxième album appelait des chansons plus dans les effets, et donc c'était légitime de se priver d'une guitare.
Il y avait plus d'arrangements de violon aussi, ouais. De synthé, ouais. Et tout ça, donc moi ça me donnait la possibilité de jouer ces parties de violon en live avec le mellotron, et puis voilà, d'avoir les synthés aussi, le côté plus synthétique du son. Donc,
ouais, parce que l'amante, c'est quand même un projet pour moi où j'aime me laisser la liberté créative d'aller un peu où je veux dans les sons. Si il y a des morceaux où j'ai fait appel à une flûtiste par exemple, et j'ai, contrairement à un projet où tout se construit en groupe, où chacun fait son instrument, j'ai envie d'aller là où mon esprit a envie d'aller, et là il y avait beaucoup de sons plus de clavier, de violon,
beaucoup
aussi,
de clavier,
donc
hein, sur
le... Voilà, il y a eu, c'était légitime, okay. D'appeler Harmonie. Allô Harmonie, ça va Harmonie? Est-ce que ça te dit de jouer avec nous?
On avait déjà joué ensemble sur une résidence à Caen pour tout à fait autre chose, mais c'était un peu le calendrier était bien tombé.
Ouais.
Et donc tu laisses quand même une. Enfin, je pense à, par exemple au violon sur Le Sens de la Fable, qu'on pourra peut-être écouter après, avec des sonorités un peu orientales, un peu. Ouais. Ça, c'est aussi une volonté de ta part, ou c'est...
Alors non, ça c'est une petite exception quand même. On a Manuel De Kock, qui est un excellent violoniste manchot, c'est-à-dire qui vit dans la Manche,
ouais.
Dans le 50, donc qui a joué sur trois morceaux sur cet album-là. Et à ce moment-là, autant il y a des morceaux où j'avais des mélodies en tête, mais là il a fait freestyle.
Ouais. Ouais.
Et c'est complètement lui qui a amené cette partie de fin qui est magnifique, et c'est
ça
le plaisir.
Lui ressemble.
Ça lui ressemble, et c'est le plaisir de la collaboration aussi.
C'est ça.
Ouais.
Il y a quand même cette liberté là qui.
Ouais.
Est...
Ouais. Ouais. Complètement.
Okay. Tu sur l'album, il y a des allusions à la guerre. Il y a le morceau De nouveau la guerre. Il y a l'instrumental Tué. Les textes parlent de frontières, de chevaliers. Est-ce que cette guerre, elle est une lecture directe de l'actualité, ou c'est juste une guerre intime, métaphorique?
Alors il y a de la... Ouais, non, c'est lié à l'actualité quand même. Enfin, ouais, quand tu prends un petit recul, tu te demandes, en tant qu'enfant, qu'est-ce que t'en penserais de tout ça? Oui, c'est lié à ça, c'est sûr. Est-ce que... En même temps, il y a des guerres tout le temps, donc est-ce qu'il y a 30 ans, je l'aurais écrite? Peut-être que oui, quoi.
J'allais dire, à chaque âge, je pense que tu as vécu une guerre, enfin, tu as connu une guerre quelque part dans le monde à chaque décennie. Quoi.
C'est ça.
C'est assez intemporel ce morceau, je trouve.
Et tuer, c'est pour une autre raison, par contre, c'est que il y a des petites mélodies de guitare. Quand j'avais fait ma démo, je chantais, le yaourt me faisait dire tuer. Et c'était le nom de ma démo, et je l'ai gardé, ce nom-là, même si j'ai remplacé les voix par des guitares. J'ai gardé ça.
Comment ça se... Il y a deux instrumentaux, je crois, sur le disque.
Ouais.
Comment ça se décide de mettre ou pas du chant, de rajouter du...
À la base, il y avait même plus d'instrumentaux. J'ai décidé d'en enlever pour qu'il y ait une lisibilité plus facile, parce que beaucoup d'instrumentaux, ça faisait peut-être beaucoup. Et j'ai envie de dire tout simplement que c'était une série de morceaux écrits sur une période... Et j'ai pas plus réfléchi que ça. C'est simple. Ouais, il y a un morceau qui me sert un peu de passerelle aussi pour passer d'un mood à un autre. Ça part un peu mineur, puis ça finit un peu majeur.
D'accord.
Il y a une transition.
Ouais. D'accord, ouais.
J'ai l'impression que t'aimes bien les interludes instrumentaux.
Ouais, j'aime bien ça.
De manière générale, dans les
j'aime bien ça. En fait, je préfère. J'aime autant écrire que chanter, et ça me plaît tout autant de que ce soit instrumental, et voilà, c'est vraiment créer qui m'intéresse le plus. Je tiens pas forcément à être chanteur tout le temps, et peut-être qu'un jour il y aura encore moins de chance, je sais pas, on verra.
Oui, donc tu conçois quand même le disque comme une progression, un voyage qui laisse la place à des respirations instrumentales. Enfin, je veux dire.
Ouais.
Complètement. Même à l'intérieur des morceaux, c'est une façon de l'écrire comme ça.
Ouais.
Il y a toujours il y a souvent un peu un refrain instrumental ou un post-refrain ou pré-refrain instrumental dans beaucoup de morceaux.
Carrément. Ah ouais. Enfin, pardon, j'allais dire, malgré que je chante en français et que du coup le sens a quand même je vais pas chanter n'importe quoi, mais malgré que je chante en français, c'est quand même la mélodie qui parle en premier, et des fois je me pose presque la question, est-ce que chanter en français, est-ce que donner un cadre, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la mélodie donner le sens, question sans réponse.
Est-ce que dans ce que tu écoutes, par exemple, tu es tout de suite attentif au sens?
Pas du tout.
Hein.
En fait, je crois que je connais aucune chanson par cœur. Mmh. Je fais pas trop attention aux paroles.
Moi, je tendance à penser que c'est un avantage qu'on a, les Français, d'écouter beaucoup de musique en anglais, mais qu'on peut d'abord se laisser porter par la musique, et si on veut, on creuse. Quoi,
c'est vrai. Ouais.
Enfin, moi, je vois ça comme un avantage, mais.
Et pourtant, pour quelqu'un qui n'accorde pas forcément d'importance au sens de ce qu'il écoute, t'as une écriture hyper poétique et hyper profonde en français.
En fait, une fois que j'essaie de mettre un texte, pour moi, maintenant, je pourrais pas trop faire autrement qu'en français parce que j'ai un autre groupe dans lequel je chante en anglais, qui est plus vieux, ça fait plus de 10 ans qu'on joue. Il y a un moment où je me dis, allez, ce mot-là, je vais lui donner tel accent. Et en fait, tu sais, tu pioches par mimétisme. Il y a dans ton phrasé, t'as un peu d'américain, t'as un peu d'australien, t'en sais rien, peut-être un peu d'anglais. Et à un moment où tu te demandes, est-ce que c'est complètement authentique. Et voilà, il y a un peu ce truc-là. Je pense que, puisque j'écoute beaucoup de trucs en anglais, j'ai encore cette impression que l'anglais sonne mieux, enfin que c'est plus dur, mais j'aime pas croire ça. Je pense que c'est juste une question d'habitude et voilà.
Alors quand tu pars dans l'écriture en français, moi je trouve qu'il y a une patte littéraire assez forte, avec une narration qui prime, j'ai l'impression. Et dans quelle mesure la littérature elle va influencer ton écriture? Est-ce que tu conçois tes morceaux comme des fables, parce qu'il y a ce morceau, donc le sens de la fable, jusqu'où ça va dans ce sens-là?
Déjà, je suis peu consommateur de littérature, mais je m'y mets. Je me mets à lire des livres et à les finir. Ça, c'est beau, c'est frais de cet été. Et les fables, ça me parle pas mal. Ces petites, il y a presque un côté parfois comptine un peu dans. Donc sans un morceau,
excuse-moi.
Il y a un morceau qui s'appelle Le calendrier des pompiers. Pour moi, c'est d'ailleurs c'est le seul morceau où j'ai écrit les paroles avant la musique. Et pour moi, c'est presque une fable en fait, ce texte-là.
Qui va jusqu'à la morale, que est censé porter une petite fable.
Ouais, c'est l'histoire d'une fleur d'hortensia qui se fait prendre en photo, et en fait le photographe envoie ses photos, et en fait elle finit sur le calendrier des pompiers, c'est le nom de la chanson, et donc il y a la tête de la fleur sur le calendrier des pompiers, et donc toutes les autres fleurs du jardin, en fait elles sont super jalouses de la fleur qui a rien demandé pourtant, et qui est... Elle a rien demandé, et en fait, ouais, elle a un rôle d'influenceuse sans le vouloir. Et du coup, tous les autres fleurs l'envient, et du coup, la fleur tombe à moitié en dépression de chagrin parce que elle se sent détestée alors qu'elle a rien fait. Et en fait, un jour, il y a un passant qui passe dans le jardin, qui voit la fleur, qui la reconnaît, hein, c'est la fleur du calendrier des pompiers, et qui l'arrache, et pour sa gloire à lui, j'ai la fleur célèbre. Et fin de l'histoire.
Oui, donc comme une fable, une petite mise en garde sur certains. Ok.
Et sur la jalousie, sur. L'envie. Est-ce qu'il faut la jalousie? Ouais. Donc, ouais.
Pour juste parler du live, de la prestation live, l'architecture des morceaux, elle semble très pensée pour le studio. Enfin, en studio en tout cas. Comment ça se joue pour l'énergie d'un festival ou d'un concert, d'une scène où pour essayer de défendre cette complexité en fait.
Ben Armo, tu veux peut-être. Je sais pas si tu veux rebondir à ça.
J'ai l'impression qu'il y a des morceaux sur lesquels on a retravaillé justement une énergie un peu différente pour le live. Et puis aussi parce que peut-être que c'est des morceaux que vous aviez joués déjà depuis un moment finalement de cet album-là, ouais. Qui ont eu plusieurs versions, qui ont des versions plus rock, et donc il fallait retrouver une énergie un peu différente avec des synthés. Et il y a des morceaux qui sonnent assez différemment de l'album. Et ouais. Il y en a, on a essayé de coller au maximum à ce qu'il y avait sur le disque aussi.
Ouais, on a fait une sélection aussi des morceaux qui pouvaient passer le. Qui étaient les plus lisibles, parce que moi j'ai souvent l'impression que c'est pas forcément une musique très accessible à tous, et c'est pas forcément facile de s'imposer dans un festival en plus. Où j'ai l'impression que souvent les gens vont en concert pour que ce soit festif, pour et nous c'est pas trop ça, donc moi j'ai
on aime bien être festif, mais
on aime bien être festif, mais cette musique là est
enfin, c'est peut-être quand on va en festival, on s'attend pas, on connaît pas forcément tout, et du coup faut parler aussi aux gens qui nous connaissent pas.
Ouais,
mais t'as beaucoup de chansons qui sont contemplatives aussi, et qui méritent du coup une écoute différente, peut-être que juste donner une énergie très rock, justement.
Ouais, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, ce live-là, on a retiré des morceaux qui étaient un peu plus chelous.
Oui.
Tout comme d'habitude, on joue de nouveau La Guerre, des morceaux comme ça. Et là, on s'est dit, allez, on va peut-être essayer d'avoir plus des titres un peu plus faciles aussi.
Mais je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ta musique est pas forcément accessible à tous. Je trouve qu'il y a quand même toujours une mélodie qui capte l'attention, même si c'est pas le format chanson très radiophonique ou très pop. Il y a toujours une mélodie qui vient capter l'oreille, je trouve, même de quelqu'un qui va pas écouter forcément de la musique expérimentale ou progressive. C'est un peu la force aussi de ta composition, je pense, ta façon de composer. Toujours un truc qui catch un peu les gens, quand même.
C'est pas à moi de.
Enfin,
de
c'est comme dire, ça que je le ressens, moi, de l'extérieur.
Peut-être avant de terminer, une petite question sur l'édition de ce disque, la Maison des Voisins. Il y a des labels indépendants, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un modèle un peu éclaté? J'ai l'impression d'un micro-réseau de différents labels, c'est ça?
Oui, il y a eu pas mal de labels dessus. Hein. Il y en a eu 3 qui sont de Caen, de chez nous. Et en fait, il y en a eu un aux États-Unis que je connais via via Internet, quoi. On s'est rencontrés comme ça. Et puis un label de Paris également. Et en fait, chacun a fait son petit rôle. Il y a un label qui a pressé des disques, des vinyles, pardon. Il y en a eu peu, mais c'était pour marquer le truc aussi. Il y a un label qui a mis en ligne en digital. Il y a un label qui a poussé un peu une petite campagne sur YouTube pour les clips. Enfin, chacun a fait son petit rôle, donc c'est vraiment des micro-labels. Et à la fin, on est content. C'est des supports, c'est des choses qu'on n'a pas à faire nous, et c'est précieux, parce qu'on est un peu au four et au moulin quand on est sur un projet indépendant.
Donc c'est un peu un pragmatisme d'autoproduction, mais est-ce que c'est aussi pour rester un petit peu en marge de l'artisanat musical, enfin garder un petit peu une artisanat musical
Tu veux dire de bosser avec eux plutôt que des plus gros?
Oui, t'es pas sur un label tout puissant qui gère tout.
Après, je vais pas mentir, hein, s'il y avait un plus gros label, bien sûr, ça m'intéresse de toucher plus de monde. Hein, mais
ce pragmatisme-là te plaît aussi?
Mais me plaît énormément, et aussi je vais favoriser le fait de me sentir humble dans la démarche, enfin pas humble, mais sincère dans la démarche, plutôt que de chercher à toucher plus de gens. Si c'est pas vraiment moi, alors je vais pas chercher.
Bien sûr.
Voilà.
Ok. L'ancrage en Normandie, la scène cannaise, la scène, c'est vous y prenez part. On peut vous voir là-bas régulièrement. Vous êtes
On est dans le coin. Vous venez à Caen, vous nous trouvez. Hein.
C'est ça. La Monte a beaucoup joué à Caen à un moment donné. Moi, je me souviens, avant même d'intégrer le live, je me souviens. Je pense que t'es un des projets que j'ai vu le plus en live à Caen à un moment donné.
Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a
sur une période. Et puis il y a eu pas mal de dates autour aussi.
Ouais, mais vous nous trouverez plus souvent qu'Orelsan.
D'accord.
Okay. À Caen, ouais. Okay, c'est clair. Plus
du
régulièrement.
Du coup, des projets de tournée, de live.
Alors là, c'était le dernier concert d'une série de tournées, donc qui était là pour promouvoir l'album La Maison des Voisins. Et donc on fêtait un peu notre dernière. Là, on avait fait une petite dizaine de dates. Et on est super content de l'avoir fini comme ça parce que c'était un super moment. Et la suite, c'est que il y a beaucoup de nouveaux morceaux qui sont enregistrés. Et qui sont assez différents dans la production, dans les sons. C'est très artisanal, très organique.
Encore plus et expérimental, je pense.
Peut-être, même. Peut-être. Il y a peut-être plus de ça. Et donc l'idée, c'est qu'on va retravailler cette nouvelle formule avec de nouveaux morceaux. Ouais. Et peut-être revenir avec un live différent, très différent, je pense. Enfin, ça reste la même patte. Et on espère revenir d'ici 6 mois, 1 an, quoi. Refaire des concerts.
6 mois, c'est bien.
6 mois, c'est bien.
Bah, en tout cas, bonne continuation. Il y a un morceau où vous chantez On ne sait pas ce qu'on fait là. Oui. Nous, on était ravis de vous voir en concert et on savait pourquoi on était là. Merci,
merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. On va se quitter avec un dernier titre, un nouveau titre, le sens de la fable qu'on n'a pas écouté tout à l'heure et qu'on va écouter maintenant.
Sous
La menthe, le sens de la fable, c'était du coup l'interview précédent menée par notre ami Trémolo.
Principe actif 102.4 FM. Principe actif 102.4 FM. Principe actif.
Et oui, nous reprenons la suite des interviews après la menthe. On accueille mon cher Guy, qui est avec nous donc sur le studio de Principe Actif à Rock in the Barn. Bonjour.
Bonjour.
On va parler un peu de ta musique. On l'a pas encore écouté ce soir. Tu vas jouer tout à l'heure, à, je crois, 23h30.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais. Donc, on peut décrire peut-être cette musique comme un télescopage entre country un peu crépusculaire et puis des choses un peu plus robotiques. Moi, j'ai pensé un peu à des rencontres entre, je sais pas, des musiciens comme Lee Hazlewood et Kraftwerk, ou je sais pas. Est-ce que tu comment tu fais dialoguer comme ça justement des mondes quel est ce choix en fait que tu as fait?
Je crois que j'écoute pas mal de musiques différentes, notamment pas tant de musique électronique, et que j'aime beaucoup. En fait, j'avais très envie de composer. Je faisais de la clarinette quand j'étais petite, et c'était chouette, mais c'était pas très très libre, et j'avais envie de savoir jouer tous les instruments et d'avoir un groupe à moi-même. Et donc la musique électronique, c'était un peu une manière de pouvoir jouer de tous les instruments, et comme mes influences étaient aussi assez diverses, je me suis dit que c'était assez chouette de pouvoir mélanger des univers qui me parlaient. Donc voilà, c'est
donc le western un petit peu, c'est ça le...
En tout cas, les mélodies. Ce qui est marrant, c'est que je regarde pas tant de films western. Enfin, même le cinéma, j'adore, mais je pense pas que je suis une cinéphile comme on peut le penser, l'imaginer. Mais ouais, les BO des films des années 70, ça me parle beaucoup. C'est des suites d'accords que je trouve qui font voyager, qui sont super chouettes. Et c'est pour ça que
c'est devenu un peu la colonne vertébrale du projet, en fait.
C'est ça.
Ok. Et est-ce que tu composes en pensant d'abord à des scènes un peu visuelles précises, ou bien c'est juste le son de ces bandes originales qui te portent?
Je pense que j'ai envie de raconter quelque chose justement avec la musique. J'aime la... Quand je compose, je pense que même si j'arrive au départ à me dire, à tâtonner sur un piano et à trouver quelques accords, rapidement j'ai besoin d'avoir, enfin j'ai des images qui arrivent, et donc c'est comme ça que je continue, même si c'est pas l'intention de départ.
Première,
L'image fait vraiment partie intégrante du projet, même si elle est pas présente.
D'accord, ok. Et donc du coup, bah, la composition elle s'est faite, j'ai vu sur les derniers titres que tu as publiés avec Hugo Steckmann sur certains morceaux.
J'ai fait un titre avec Hugo, qui est un très bon copain que je vois régulièrement pour discuter musique, pour composer et échanger. Je pense que c'est quelqu'un, c'est une des personnes que j'ai rencontrées récemment qui partage le plus mon univers. Et donc c'était un bonheur de rencontrer cette personne qui avait rien sorti quand je l'ai rencontré. Vraiment, il avait quelques maquettes et il m'a dit, je pense que ça va te parler. Effectivement, ça m'a beaucoup parlé puisqu'on a sorti un morceau ensemble.
Et comment ça s'articule, votre travail à deux? Où s'arrête ton travail, où commence le sien? Qu'est-ce qui...
En fait, lui, il avait commencé sur le morceau qu'on a sorti. Il avait commencé quelques accords qui lui faisaient penser à l'univers western, qui lui faisaient penser du coup plutôt au western italien, plus que de la country.
D'accord.
Donc des films d'Ennio Morricone, voilà. Et
oui, donc ouais, vous êtes rejoints là-dessus.
Non, il est arrivé avec ça, parce que lui ce qu'il fait par ailleurs, c'est assez différent. Mais il avait composé un petit truc comme ça, et il m'a dit, celui-là en spécifiquement, forcément ça va te parler. Est-ce que ça te dit qu'on le finisse ensemble? Mais il avait une petite boucle, et on a bossé vachement ensemble dessus, et c'était super fun de travailler avec quelqu'un d'autre qui avait cette même envie de développer cet univers-là. Voilà.
Est-ce que tu travailles donc avec des instruments acoustiques aussi, des sifflements, des guitares trémolo, des synthétiseurs un peu vintage, des choses comme ça?
Alors, j'ai une clarinette que j'ai sur scène, mais que j'ai pas dans mes productions. La guitare, je la fais avec du sample